Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Et le son est pas là. Si, le son est là.
Hello, hello.
Il est là, mais il y a un téléphone trop proche de, d'un fil.
Ah, c'est lequel? C'est bon,
c'est réglé.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de l'Alconos. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul parce que vous voyez qu'on a déjà plus que 3 mètres carrés.
Puisqu'aujourd'hui, incroyable.
Puisqu'aujourd'hui, on est avec l'équipe de Humtech Project pour parler un petit peu de protocore, de tout ça, de votre jeu, de votre parcours. Et qu'est-ce qui vous a amené à monter un studio de jeu sur Strasbourg? Voilà, on est dans leurs locaux. Et voilà, et c'est cool.
Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont là.
Ouais, ça va être la fête, ça va être rigolo. Voilà, on est pas en retard. Ah, si, on est un peu beaucoup en retard. Mais ça, c'est pas grave. On a l'habitude à force. Et on va peut-être commencer par. Du coup, on va vous laisser vous présenter. Donc, les membres de l'équipe qui sont là.
Attention, problème son.
Moi, j'entends rien.
Qu'est-ce qu'il dit?
On m'entend pas.
Il s'est trompé.
Est-ce que le micro est allumé?
Ah, comme quoi, j'ai bien posé la question.
T'es sûr que c'est pas.
Voilà, on a
avant on a fait le test, tu m'as dit oui.
Avant il fonctionnait le micro.
Donc c'est bon, maintenant le micro est allumé.
Ah oui, c'est beaucoup mieux là.
Ouais, ça marche bien.
Mais je l'ai pas éteint en même temps. Ouais, bon, ouais. Donc, du coup. Coucou, moi c'est Thibaut, je suis du coup cofondateur du studio Humtech et je suis également, à chaque fois c'est chiant, game designer, chef de projet, directeur marketing, tous les trucs que les gens veulent pas faire, voilà.
Et bonjour, moi c'est Johan, hein, du coup je suis 3D artiste dans la boîte.
Et bonjour, bah, moi c'est Lucas et je suis l'animateur 3D.
Donc on a plus une partie design qu'une partie développeur ce soir.
Tant mieux.
Oui, on avait un développeur qui aurait bien aimé venir, mais finalement, il ne pouvait pas.
Oh, c'est dommage.
Hein.
Dommage, donc c'est ça.
On reviendra une deuxième fois pour qu'il puisse.
Et du coup, nous vous avez rencontré du coup, à la 6e Indie Game Night au Shadok, où vous aviez fait une animation. Une animation, un matin. une présentation, une conférence sur comment faire un game design document et comme quoi il ne faut pas le faire à la fin du projet. Et
Non mais t'as raison, c'était une animation.
Et du coup voilà, bah on va peut-être vous laisser du coup présenter un peu le studio Humtech et votre projet de jeu du coup Protocore qui est actuellement en développement.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il est encore en développement. Ça fait du coup 3 ans qu'on le développe. On va commencer déjà par studio. Du coup, avec mon cofondateur Florent, un ami d'enfance, on a décidé de créer l'IUMTech en mai 2017. Donc, c'était pour essayer de développer ce jeu Protocore qu'on développe depuis 3 ans. Et du coup, Protocore, c'est un jeu de tir à la première personne, un peu à la Doom, où en fait, vous combattez une intelligence artificielle qui apprend de vos actions. Et c'est jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs sur PC et ça sera bientôt jouable sur console également. Voilà. Xbox et PS4, pas Switch pour l'instant parce que c'est un petit peu chaud.
Parce que ça
on y pense.
Elle est un peu moins puissante.
Un peu. Faudra optimiser quoi. Les graphismes.
on prend le nombre de polygones, on le divise par 4.
C'est un peu ça.
Et donc, du coup, quel a été votre parcours pour en arriver là, pour monter là un peu, quelles écoles avez-vous fait, quelles études ?
L'école de la vie.
Ouais, cette fois, c'est vous qui parlez.
Alors, niveau école, du coup, moi, après un bac, j'ai fait un DUT imagerie numérique, donc où j'ai principalement fait de la programmation sur principalement l'image, avec derrière, du coup, une licence technique à l'artiste. Donc, en un an, et on devait apprendre donc, à faire tout ce qui est animation. Un problème de son ?
Ouais, visiblement.
Ah. J'entends quelqu'un respirer. Mais
oui, moi aussi.
Ah bon ?
Il y a de l'écho là d'ailleurs.
Mais c'est formidable le son ce soir.
Est-ce que.
Je pense que Luigi sans toi.
Est-ce que. Ouais. Bah.
Attends, donc, là ça va mieux.
Est-ce que le micro est allumé ?
On était dans une autre dimension au niveau du son.
Ah ouais.
Là c'était.
Est-ce que tu n'avais pas, par erreur.
Du coup j'ai arrêté de respirer, tu vois. Oui. C'est bon, je peux respirer.
Pas, par erreur, activer les effets sonores.
Non,
oui,
l'effet cathédral.
Par erreur. Hein.
Il y avait peut-être l'effet cathédral.
Mais en fait, c'est ça.
Non, il n'était pas activé.
Ça, Johan, en effet cathédral.
Mais j'ai l'impression que son micro.
Oui, son micro.
Est-ce que t'as monté le gain ?
Non, on n'entend rien.
Est-ce que t'as coupé le micro ? Ouais, c'est bon. T'as pas fait comme moi.
Alors ? Ouais ? Ah, oui, oui, ouais, ouais, voilà. Ça va mieux ? Tu m'entends ? Non, ouais. C'est... non, apparemment, c'est bon.
C'est bon,
Luigi.
Putain.
D'accord, donc.
Noir, le
son...
je
gère tout
le monde,
moi. Bah,
tu les laisses. Le suis retenu.
Ils sont sympas, vos stagiaires. Hein, mais.
Ah non, c'est la panique, c'est la panique.
Ouais. Donc je reprends.
Ça marche mieux.
Donc oui, j'ai fait donc un DUT imagerie numérique, donc qui était principalement de la programmation portée sur l'image, et après du coup une licence professionnelle technical artist qui était portée sur la création 3D de manière générale. Donc c'était animation, modélisation, sculpture, dessin, enfin c'était tout et n'importe quoi en un an, et voilà, grosso modo c'était ça. Et avant du coup de rentrer à la IOMTech, j'avais fait différents projets, dont juste avant qui était un projet fracasse, hein, le jeu s'appelait comme ça, où on avait travaillé pendant 7 mois l'élaboration du jeu, donc ça n'a pas forcément continué, donc après j'ai suivi un autre studio, mais grosso modo c'était ça.
D'accord.
Moi, c'est tout simple. J'ai fait 3 ans en école d'animation pour faire de l'animation. Et en sortant, j'ai trouvé du boulot dans du jeu vidéo. Donc, je suis parti dans le jeu vidéo.
Sans par contre, c'était une ligne droite, tu vois.
Ah non, ça c'est... Il y a une ligne droite, il y a eu un petit trou. Et ensuite, c'est reparti après une grosse semaine de stress.
Ça va, le mec a attendu une semaine.
Voilà. Oui, bah, non, quelqu'un a attendu une semaine avant de me donner sa réponse plutôt.
Bah oui. C'est à moins des choses.
C'était tout à fait.
J'aurais
agréable.
Dû attendre plus en fait.
Voilà.
Ok.
Je te laisse continuer, Emily, si t'as des questions. Oh là là,
cette... bah, j'ai les questions, oui, mais je sais pas. On va peut-être pas parler de trucs hyper bateaux.
Bah, déjà, j'ai
fait.
Peut-être une question. Qu'est-ce qui vous a amené du coup à développer un jeu ensemble ?
Alors, pour eux, c'est la thune. Et...
l'embauche.
Non, le projet était quand même intéressant. Voilà, on aime la science-fiction. C'est des robots, c'est cool.
On a dit l'équipe qui était vraiment intéressante.
Voilà,
c'est. Personnes.
Il y a le droit de faire des blagues. C'est une très bonne ambiance.
Et la thune.
Et la thune. Bonne ambiance quand même. Et la ville est jolie.
Ah.
Ouais. C'est pas faux.
Voilà. Et moi, du coup, c'est. Bah, pas la thune. Et non, mais c'est une passion depuis tout petit, on va dire. Et puis voilà, toujours voulu créer un studio de jeux vidéo. Plus qu'un jeu vidéo, je voulais vraiment créer un studio avec des gens qui travaillent dedans. Du coup, j'ai fait ça avant d'avoir le jeu. Bon, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais voilà, au moins on a passé des chouettes moments. Et on est en train de développer un jeu aussi, accessoirement.
D'accord.
Et pourquoi avoir choisi Strasbourg comme ville pour vous implanter
Parce que j'habitais à Strasbourg.
D'accord, wow. C'est un choix. C'est bien. C'est...
Non, mais parfois c'est simple. Thune, Strasbourg.
Et passion, voilà. Mais ça va, Strasbourg n'est pas forcément la ville la plus
non.
La plus attirante pour les milieux de jeux vidéo et
non, vraiment définitivement pas la plus attirante. Si on parle en termes de densité de population, enfin c'est quand même une grande ville, Strasbourg. Mais il n'y a quasiment rien sur le jeu vidéo qui se fait. Depuis quelques années, ça commence à bouger de nouveau. Il y a eu des entreprises, il fut un temps avant qu'elle coule. Et, et du coup, en ce moment, même toute la région Grand Est, on va dire que c'est quand même un peu mort. Voilà, il y a 2 studios qui sont vraiment implantés maintenant. Enfin, je veux dire, il y a un studio qui est vraiment implanté qui s'appelle Goblins, où ils commencent à gérer un peu du pâté. Et je pense que ça va déboucher sur quelque chose de vraiment cool pour la région et pour l'emploi peut-être dans le Grand Est. Nous, il faut encore qu'ils sont de Metz.
Ouais, ah, en fait, chez East Games, souvent, ils ont de leurs jeux en présentation.
Enfin, ils sont de un peu... Enfin, ils travaillent en télétravail, ils sont de Thionville, de Metz, de pas mal de trucs. Mais ils ont leur adresse à Metz.
D'accord, voilà. D'accord.
Et du coup, nous, c'est encore un peu tôt pour dire qu'on est vraiment bien implanté, mais on va dire qu'en termes de... En termes de taille, on est le plus gros studio de jeux vidéo, hein, vraiment de jeux vidéo. Après, il y a des studios de Serious Game et tout ça, du Grand Est. Donc, c'est pour dire à quel point il n'y a rien. Voilà.
Ouais.
Non, ouais.
Et après, il y a East Game qui commence à aussi faire pas mal d'événements dans le coin avec l'Indie Game Night.
Ouais, c'est ça. Du coup, on est dans une association qui s'appelle East Game, qui est un cluster, un rassemblement, on va dire, de professionnels du jeu vidéo qui se rassemblent au sein de cette association pour créer un réseau réellement et pouvoir plus facilement organiser des événements ensemble, plus facilement communiquer, plus facilement faire plein de trucs en fait. Et du coup, si vous avez un projet de jeu vidéo, si vous souhaitez vous rapprocher du réseau professionnel de jeux vidéo, eh bien, je vous conseille de vous rapprocher de cette association. C'est un des meilleurs moyens d'avoir accès à la petite filière qui est en train de se développer dans le Grand Est.
Et après, j'ai l'impression que c'est quand même plus dense du côté. Alors, je veux dire Lorraine, mais je suis pas sûr.
C'est la Lorraine.
Mais j'étais pas sûr.
C'est toujours le truc maudit entre Mulhouse et la Lorraine. C'est un truc.
Mais ils sont quand même pas mal développés. Il y a Flying Hawk qui sont là-bas.
Il y a Flying Hawk aussi. J'ai pas parlé d'eux quand je parlais de studio, effectivement, parce que Flying Hawk, c'est encore. Ils sont que deux et c'est un rassemblement, on va dire, d'artistes. Mais effectivement, il y a eux aussi qui envoient grave du pâté avec leur jeu. Mais il y a quelques trucs qui commencent à être vraiment pas mal. Il y a aussi un mec qui travaille sur Runar, qui est un petit jeu de plateforme avec un nain super cool. Qui va être édité. Hein, je sais plus quel éditeur il a trouvé, mais il est bien parti pour sortir. Et voilà quoi.
Je l'avais vu sur Reach, je crois.
Il y a plein de petits projets qui vivotent, qui sont vachement cool. Il y a aussi l'équipe de le studio Mastodon qui travaille sur Beast the Clock, qui est aussi un jeu avec une bonne DA. Le gameplay, bon, on aime ou on n'aime pas, mais la DA est super sympa.
D'accord. Mais ouais, c'était plutôt parce que vous êtes déjà sur Strasbourg.
Oui, eux ils sont sur Strasbourg et puis Runar, le mec est pas loin et voilà. Et c'est à peu près, de mémoire là, c'est un peu ce qu'il y a. Il y a aussi Monsieur Paf qui est développé par Antoine Schmoll. Et je dois en oublier plein en fait. Mais
en fait, tous les jeux qu'on voit un peu pour l'Indie Game Night.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. En fait, de toute façon, ils sont à peu près tous là. Après, il y a quand même à l'Indie Game Night, on voit beaucoup de jeux qui gravitent autour du milieu strasbourgeois. Il y a aussi pas mal de jeux, comme on a dit, de créateurs qui sont sur le milieu, on va dire, plutôt messin, Metz, Nancy, dans ces trucs-là. Bah, la Champagne-Ardenne, je sais pas du tout ce qui se fait là-bas. Il doit y en avoir, mais on n'est pas vraiment en contact beaucoup avec eux, quoi, malheureusement. Et pareil pour les Vosges. Je sais qu'il y a un tout petit studio qui a lancé une campagne Ulule il y a pas longtemps, qui vient de Saint-Dié-des-Vosges, je crois. je sais plus le nom du jeu. Voilà, il demande 2000 euros, donc si vous avez vous voulez payer un kebab à quelqu'un, allez sur eux.
j'ai regardé et j'ai dû écrire Saint-Dié comme
c'est pas grave.
De toute façon, il sait pas écrire, c'est pas très grave.
D-I-E-R, bon, dans le doute.
3 lettres pour te rassurer.
Ok, donc j'en ai mis 4, donc je me suis planté. Et donc pourquoi avoir choisi un peu ce style de jeu, du coup, de fast FPS qui est Protocore?
C'est que des questions pour moi là.
On parlera un peu de la DA, on parlera de la DA un peu de... on parlera de comment sont implémentés les assets.
C'est vous faire valoir, regardez. En fait, y a on pas traite que... bien nos employés.
C'est juste pour dire qu'il n'y a pas que toi dans le studio.
Ouais, c'est ça. Pour faire genre. Bon. Du coup, c'était quoi ta question de nous?
Pourquoi
un fast FPS? Ah oui. Bah pourquoi pas. Voilà. Si vous voulez faire un premier jeu, ne faites pas un FPS. C'est vraiment galère. Et en fait, c'est galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de FPS qui sortent. Et en indé, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup, vous avez plein de barrières. Bah déjà, vous n'avez pas beaucoup de sources d'inspiration quand vous voulez faire des choses. C'est un peu toujours les mêmes. Et vous êtes quand même assez limité au niveau de plein de trucs. En fait, le game design est très exigeant parce que ça tient en compte du fait qu'on est à la première personne et qu'il y a plein de... on va dire de facteurs qui vont venir déranger le joueur, comme le manque de visibilité, le manque de vision du combat, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est galère. Et techniquement, c'est aussi très galère. Et en plus, nous, on fait un jeu multijoueur.
Ça, c'était coup mortel.
Ouais, faites pas un FPS et faites pas un jeu multi.
En fait, vous avez dit, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit
le plus compliqué possible. Ça, c'est ça. On s'est dit, qu'est-ce que c'est le plus hard et tout. Non, je pense qu'il y a des jeux qui. À mon avis, les jeux plus hard, c'est le level au-dessus, c'est le STR. Mais FPS, c'est déjà pas mal. Et non, mais en plus, nous, ouais, on a voulu faire un FPS multi et solo. Donc, soit vous faites multi, soit vous faites solo, mais vous faites pas les deux. avec quand même des graphismes quand même cool. On va passer là. Ouais, je veux pas mal.
Tu me jettes des fleurs, allez.
Oui, c'est pas mal. Voilà. Non, jamais. Il y avait autre chose à critiquer que les graphismes. Donc, du coup, c'est bon. Mais non, et puis en fait, c'est simplement un projet qui nous a vraiment passionné et qui nous a, au début, qui nous a vraiment donné envie de le faire.
Maintenant, c'est ça.
Si, ça
au
passionne
deux
toujours.
Heures, on en plus.
J'adore passer mes week-ends à travailler. C'est la passion. Et manger des pâtes. Mais c'est. Ouais, plein de choses qui ont fait qu'on a décidé de faire un FPS. Mais si c'était à refaire, on ne déciderait peut-être pas de faire un FPS. Mais en même temps, c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux comme nous. Donc c'est à la fois en fait un avantage et un défaut. C'est qu'on nous prend souvent quand même beaucoup plus vite au sérieux en voyant ce qu'on produit, en voyant ce qu'on est capable de faire. En tout cas, les professionnels du milieu nous prennent plus vite au sérieux et voient qu'on. On a moyen de faire des trucs cool. Par contre, pour tout ce qui est game design, recherche de publisher, production, il y a plein de complications dues au FPS. Quoi. Et pareil, le jeu à marketer, c'est vraiment difficile aussi.
Parce qu'après, il y a quand même des cadors en face. La plupart des FPS, c'est des AAA énormes.
Ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup de FPS qui sortent par an, mais les FPS qui sortent sont vraiment gros. Et prennent tout l'espace médiatique possible. Et du coup, soit tu es vraiment tout petit avec une DA super stylée, enfin super, on va dire, précise, unique dans son genre et tout ça, et tu fais ça sur un petit budget et tu vas pas faire beaucoup de ventes. Soit tu fais partie des gros, quoi. Mais le mid-size, ça existe pas beaucoup, donc c'est à nous de créer un peu cette place. Ça existe pas beaucoup, non, parce qu'il y a quand même, par exemple, des mid-size FPS qui sont sortis dernièrement, donc c'est quelque chose qui est en train de se créer. Je pense notamment à Deep Rock Galactic, même si c'est quand même une équipe de professionnels, enfin les mecs ont pas mal d'expérience et ont arrivé à faire un truc vraiment cool. Ils sont partis d'assez loin et je pense que ça a été aussi une bonne traversée du désert pour eux, jusqu'à arriver là où ils sont, quoi. Donc voilà.
Faudrait que je le teste. Alors j'ai une question dans le chat. Donc les gens en live sur Twitch, on vient d'exploser notre record de viewers. On est à 6 viewers.
Wow,
c'est la fête.
Ouais, ça c'est un, c'est moi. Donc,
ça c'est ça c'est la commu, ça.
Ouais, franchement là.
Mais j'ai deux instances de Twitch.
en fait, on a trois.
On est six dans cette pièce. Il pose des questions, les salauds.
Du coup, j'avais une question qui. Donc, c'est Sniff Gamer qui nous disait j'ai cru comprendre que le département Pays de la Loire vous a aidé. Tant mieux, mais pourquoi?
Quoi?
Non, pas du tout.
D'accord.
Pays de la Loire.
Pays de la Loire.
Pourquoi le Pays de la Loire?
D'accord. C'est où le Pays de la Loire?
C'est loin. Non, Pays de la Loire, c'est pas près de la Loire.
C'est dans l'intérieur. Merci, Jules.
Et Pays de la Loire, c'est à l'est de la Bretagne.
Ouais, donc
c'est loin, quoi.
Il y a beaucoup de choses à l'est de la Bretagne aussi.
Ouais.
Ah bah c'est sûr, à l'ouest de l'Alsace aussi, franchement.
Pays de la Loire, c'est à l'ouest de l'Alsace.
au sud du nord, voilà.
Le nord du PACA.
D'accord, donc voilà. Donc non.
Non, c'est... bah non, je sais pas d'où, peut-être des précisions sur d'où t'as eu cette information, mais on n'a pas été aidé par cette région-là, parce qu'on est
mais on
cette
aimerait
région-là,
bien,
ouais. On aimerait bien, alors si tu fais partie d'un conseil d'administration, de toute façon, tu peux pas être aidé par une région si tu n'emploies pas de personnes de cette région-là, ce qui est logique, et tu vas être aidé que sur le budget que tu vas dépenser dans cette région-là, on va dire, donc que sur un pourcentage du budget.
Et donc les précisions, c'était il a cru dans le dev blog.
Ah ok, d'accord, pardon. Bah...
Qui a été bourré, a écrit n'importe quoi.
Bah, ça doit être moi, hein. Florent. Et si ça parle de subvention, ça doit être moi.
Et du coup, bah c'est bien. Bah, du coup, on a une transition vers une question.
Moi, j'ai une transition.
Vas-y,
une question.
Vas-y, parle.
Au niveau de votre statut juridique, vous êtes une entreprise, une asso.
Non,
parce qu'en
une
fait,
entreprise.
Il y a possibilité d'être une asso et
ouais.
De gagner de la thune aussi en Alsace, et c'est ça qui est bien, quoi. Donc,
vive le droit local.
Ouais.
Alors, je sais pas de. Moi,
parce
je
que tu
pense
payes
à la.
Moins,
je pense à la SCOP. Ouais. Mais tu parles pas de, peut-être pas de ça.
Non, moi je parle vraiment du droit en fait civil local.
Enfin, du coup, okay. C'est pas le droit civil.
Si.
C'est le droit local, non?
C'est droit civil local.
Je t'avoue que moi pour le moment ça me fait plus chier parce qu'il faut que je trouve 7 personnes qui veulent lancer une asso pour l'alconose. Donc,
mais
moi,
après, c'est un peu chelou. J'ai essayé de lire quelques pages dedans, mais j'ai pas trop compris comment ça se passait au niveau des bénéfices en fait et comment ils étaient reversés parce que okay. T'as différents statuts en fait. T'as des dirigeants au sein de l'asso, des représentants et en fait en fonction de ça, t'as l'argent qui est redistribué d'une manière un peu bizarre.
Okay.
Mais il faudrait se pencher là-dessus.
Moi, ce que je conseille, c'est si tu veux faire une entreprise, on va dire, sur le base d'une association, enfin sur un modèle d'association, c'est que tu crées une SCOP, qui est théoriquement une association, mais qui est vue comme une entreprise aux yeux de l'État. Et une SCOP, c'est en fait, tout le monde est salarié, et tout le monde a une part dans l'entreprise, tant que tous les salariés en fait, amènent le capital, le montant du capital qui est amené au départ. Tout le monde peut devenir associé. En gros, tous les salariés peuvent devenir associés. Et du coup, ça te crée une organisation qui est très similaire à une association, quoi, avec quelque chose de très horizontal. Peut-être quelque chose qu'on aurait fait à l'époque si on avait été plus nombreux, en fait. Nous, on s'est tourné vers une entreprise plus traditionnelle parce qu'on était juste deux et qu'on savait qu'il fallait qu'on embauche des gens et que ça allait pas forcément être leur projet. Donc, ça allait être difficile de... on va dire avoir le même statut. Mais à bien y réfléchir, moi j'aimerais bien avoir un statut salarié. Hein.
Le
travail
clair,
que je
clair.
Fais et la paye que j'ai.
Ouais. Bah, c'est surtout que tu as moins de charges en général quand tu te mets en asso ou des trucs comme ça. En fait, tu payes moins de cotisations sociales.
Ça peut être,
ouais.
Ça c'est un montage pour le coup. Faut en parler avec un expert comptable, un bon expert comptable qui soit au courant. Quoi.
Mm-hmm.
C'est la meilleure manière. Après, je pense qu'il y a des plus et des moins aussi.
Oui, c'est sûr.
La vie en asso, ça peut aussi être un peu chaud d'avancer et de prendre des décisions. Quoi.
Bah, sinon, tout le monde créerait une association. Genre, Total, ce serait une association.
Oui, non, mais il faudrait que ce soit en Alsace, tu vois. C'est pas...
Et du coup, bah, c'est bien en termes financiers. Et du coup, est-ce que vous avez eu des aides pour de la French Tech ou des trucs comme ça? Des aides de la région
Il y a eu des aides de tout le monde, sauf... Sauf la région Loire-Pays de la Loire.
D'accord.
On les attend.
Non, on a eu des aides du coup de la French Tech, la BPI, la Banque Publique à l'Innovation, la région. Il n'y a que l'Eurométropole de Strasbourg qui nous a pas filé les thunes, je crois.
What?
Franchement.
Les gars, qu'est-ce que vous avez fait?
Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais c'est bien. Ils n'ont pas assez d'argent, c'est pour ça.
Ouais.
On n'est pas dans leur reach. Mais. Et CNC. Voilà, en gros.
D'accord.
Et après des prêts, de la part des banques aussi.
Ok. Donc là, vous êtes endetté sur 56 ans et vous espérez que
c'est
ça marche.
Si je ne marche pas, ça va être difficile.
Et donc... Alors autant courir.
Ouais. C'est ce que je fais.
J'en
c'est ce
peux
qu'on
plus,
fait tous.
Je suis essoufflé.
C'est ça. Le sprunch, ouais. Oui, on a inventé un nouveau concept. Je crois que j'avais dit à la dernière Andy Game Line, mais c'est le sprunch, du coup, qui est un mix entre du sprint, du crunch et le truc. Et des schtroumpfs. Alors, je sais plus. D'accord.
Mais du coup, votre jeu, vous le faites sur Unreal Engine, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Bon, voilà, ok. Donc, j'ai pas dit de bêtises, yes. Et du coup, comment ça se passe le travail quand vous faites pour collaborer ensemble? Donc, vous avez plusieurs développeurs, vous avez.
Oh,
oh mon dieu! Je me demande à qui je m'adresse!
La collaboration est très difficile.
Je ne supporte personne.
Non, en soi, c'est assez simple. À partir du moment où chacun a ses rôles, on va avoir du coup un. Par exemple, moi en tant que 3D artiste, du coup il y a le directeur artistique vers qui je me tourne donc, pour savoir les tâches que je vais avoir à faire, savoir du coup le style graphique qu'il faut que j'obtienne à tel ou tel endroit. Et du coup lui-même pose des questions donc, à Thiébaud pour savoir si ça correspond du coup au game design, à l'ambiance générale, à tout ça. Donc voilà, à partir du moment où c'est assez bien hiérarchisé, ça fonctionne assez bien, assez facilement. C'est aussi l'intérêt du coup d'entreprise lyrique classique. C'est comment il y a que quelques personnes à la tête, du coup, à dirige, et ça peut aller plus vite qu'avec plein de personnes qui donnent leur avis non-stop. Donc ça permet d'aller plus vite. Après, les directions, du coup, sont optées par quelques personnes seulement, mais au moins, ça permet de travailler efficacement dans une direction. Et du côté prog, pareil, il y a le directeur technique, du coup, Flo, qui du coup a un autre programmeur avec qui il travaille et puis redispatche le taf à droite à gauche. Donc voilà, c'est assez hiérarchisé. Et du coup, toi aussi en animateur.
Je veux bien parler de mon propre pôle. Ce qui est bien en tant que seul animateur, c'est que je suis le directeur de mon propre pôle.
Ouais, bah dis donc, c'est étonnant.
Donc
ça.
Voilà, je parle directement avec les grands patrons. Non, en vrai, du coup, je vais discuter avec Flo qui est le gérant parce que lui, il va gérer tout ce qui est le code derrière mes animations, parce que moi, en gros, je vais organiser mon petit arbre et lui, il va faire tous les trucs pour que les branches se rejoignent entre elles. Et du coup, en fait, je parle d'un côté avec le directeur artistique pour qu'on ait quelque chose qui soit visuellement plaisant, et de l'autre côté avec les développeurs.
c'est quoi déjà ? Qu'est-ce qu'ils font ?
Et de l'autre côté, avec les développeurs pour justement toute la mise en place, c'est le puzzle que c'est, en fait. Parce que c'est assez... On se retrouve avec des kraken parfois, et c'est vachement sympa.
De quoi, des kraken ?
Voilà. Alors en fait, bah, tu t'imagines... Imagine, voilà. Alors, t'as ton logiciel, t'as ta petite fenêtre, et t'as un truc qui va te dire « Mon animation fait ça », et qui va rejoindre un autre truc qui va te dire « Mais en plus, il fait ça », et lui, il va rejoindre autre chose, qui va rejoindre autre chose, qui va rejoindre autre chose, fois 30. Ça te fait un kraken. Et il faut que ça marche. Et c'est vachement sympa.
Et du coup, vous bossez tous directement dans Unreal ou vous utilisez des outils secondaires ?
Oui, non, on utilise d'autres logiciels aussi. Ne serait-ce qu'en 3D, on utilise Blender. Du coup, pour vraiment faire la modélisation, faire l'animation aussi, préparer du coup la texture, faire les UV. Enfin voilà, on a Blender qui est notre principal logiciel finalement. À côté, on peut utiliser Substance, on peut utiliser du Photoshop, on peut utiliser. Voilà, on a différents du coup logiciels comme ça qu'on va utiliser. Donc voilà, on jongle le plus entre tout ça. Et ouais, après, c'est vrai que des fois, bah, du coup, on tape un peu dans la prog avec les progs pour résoudre les problèmes, comme il disait. Ce qui est assez marrant, hein, des fois à faire. Non, il n'y a pas. Oui, aussi. Mais c'est sûr, bah, en fait, vu qu'on teste aussi, à la base, on n'avait pas forcément des tonnes d'expérience chacun de notre côté. Donc, on a vraiment développé des nouvelles techniques, recherché, savoir comment ça fonctionnait, résoudre des problèmes nous-mêmes. Et donc, on a régulièrement tenté d'innover à notre manière. Et des fois, ça a donné des nœuds de cerveau au prog, savoir pourquoi ça ne marchait pas.
Des fois.
Ils ont plus moins de cerveau que l'esprit tranquille, oui. Mais voilà, on a oui, effectivement plein de logiciels à côté.
D'accord. Est-ce que vous avez des questions, les autres à ma droite ?
Comment tuer les kraken ?
La foudre ?
Alors on ne peut pas, en fait. C'est... Le kraken est créé parce que c'est la seule solution et qu'on n'a pas trouvé plus simple. Donc on ne peut pas. Malheureusement.
Mais il est bien, le kraken.
Il est très joli, notre kraken.
À la limite, j'avais une petite question pour revenir à ce que tu avais dit, comme quoi...
C'était votre moment, les gars.
Tu avais dit que si on veut commencer dans le développement de jeux vidéo, c'est pas bien de commencer par un FPS. Mais du coup, tu conseillerais quoi comme jeu qui serait
non,
bien
en vrai, c'est surtout, commencer par un jeu qui vous motive et qui vous passionne. Et puis voilà, quoi. Et essayer de ne pas voir trop loin. Rester dans le présent.
Faites pas un truc en multijoueur.
Et voyez vos ambitions à la baisse, toujours. Voilà. Vous le ferez pas parce que, parce que quand on commence dans un jeu vidéo, on a envie de déplacer des montagnes et c'est normal. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est en fait n'importe quel genre de jeu tant que ça vous passionne. Et de toute façon, ça a de grandes chances d'être un échec. Et c'est pas grave. Après, vous en refaites un autre, vous en refaites un autre, vous en refaites un autre. Et voilà.
Faut partir du principe qu'on va rater, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
D'accord.
T'as pas encore découvert ça avec la programmation
Non, moi je sais que ça va pas marcher de base.
J'ai même pas d'espoir.
Mais il faut rester passionné quand même. Tu vois, c'est chaud. Ouais,
Mais c'est vrai qu'il faut être passionné, je pense, dans ce qu'on veut faire. Ça, c'est sûr et certain, au nombre d'heures qu'on peut faire. Mmh. Mais à côté de ça, c'est peut-être aussi cibler assez régulièrement, du coup, plutôt que partir sur FPS, solo, multi, campagne ou autre. Enfin, déjà, partir d'une base. Et ensuite, petit à petit, ouais. Développer à partir de ça. Ça peut du coup aider, en tout cas, un début, en général, je pense.
Si je peux rajouter mon petit mot, moi justement, j'ai fait une école d'animation. J'ai débarqué littéralement dans le jeu vidéo avec ce boulot. Ça fait que j'ai appris tout ce que j'ai appris sur Unreal en un week-end pour passer le sujet et tout machin. Et ensuite, j'ai bouffé des tutoriels, des vidéos, des machins. Et c'est hyper... Enfin, en gros, le jeu vidéo est énorme. C'est vraiment un média qui est énorme et il y a tellement de choses à faire qu'en fait, on ne peut pas faire dans les autres arts. Et du coup, c'est bien de commencer par quelque chose qui nous plaît. Donc, que ce soit un FPS ou pas, au final, c'est vrai que les FPS... Enfin, certains jeux peuvent être plus compliqués que d'autres à faire, mais le plus important, c'est de faire quelque chose... En fait, je pense, idéalement, il faudrait commencer petit et ensuite construire petit à petit, ça, avoir une bonne base et ensuite construire, aller de plus en plus haut et créer quelque chose de plus en plus important. Mais oui, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Mmh. Et au final, bah, faut aussi s'entourer des bonnes personnes, je pense.
Mmh. Ouais, clairement. Ne vous lancez pas seul. Voilà. Ne vous lancez pas seul dans le jeu vidéo. Ça, c'est vraiment la base.
Parce qu'on a beau se dire, faites pas un FPS, faites pas des machins. Non, on a une bonne équipe.
On a beau se dire, ne faites pas un MMORPG open world tout seul. C'est ce que Florent s'est dit en se lançant dans le jeu vidéo.
Ouais. Mais c'est vrai qu'être plusieurs, ne serait-ce que ça, ça aide à se motiver. Mmh. Quand on est seul, on va essayer, mais il va y avoir des hauts et des bas, c'est obligé. Et au moins, quand on est plusieurs, on peut vraiment serrer les coudes et là, avancer tous ensemble. Mmh. Ça, c'est certain. Et comme il disait, ouais, être plusieurs, au moins, ça permet aussi de déléguer et de se charger seulement de certaines parties et d'être plus efficace finalement dans son travail. Si, d'être à plusieurs.
Et après, du coup, quelles ont été du coup, vos sources d'inspiration un peu tout le monde, pour Protocore, pour peut-être la DA, pour les animations, pour un peu tout.
Voilà. Quand je suis arrivé, on m'a dit Doom. Moi, dans la tête, j'avais Halo. Donc, la moitié de mes animations, c'est du Halo. Voilà, le 3 décembre, il y a Rich qui arrive, on est tous contents. Enfin, je suis content. Mais sinon, oui.
Il nous l'a pas dit, hein, quand on a fait Doom, il a fait ah ouais, ok, j'adore ce jeu.
Ouais, ouais. Moi, je suis passé sur autre chose.
Déjà plus tard.
Mais oui, niveau animation, bah. Tout ce qui est FPS, j'en ai bouffé. Je les ai regardés à la frame et tout machin, que ce soit du Doom ou du Halo ou du Half-Life, tout ça, tout ce qu'on peut trouver en FPS. Ou...
Mais il n'y en a pas beaucoup, justement. Il n'y a pas beaucoup d'inspiration.
Y en a beaucoup, mais en fait, nous, on est vachement spécifique dans ce qu'on a demandé. Parce que, ouais, on aime ça. Je pense qu'on est un peu sado dans la boîte.
Oui,
oui. On aime faire des choses, après on les met à la poubelle, on fait autre chose qui est mieux.
Oui, parce que rien que le fait d'avoir deux armes en même temps, bah, ça fait que la plupart des inspirations FPS qu'on peut avoir, notamment sur les trucs à la première personne, bah, partent à la poubelle. Ça marche pas.
Ça n'existe pas.
Donc, voilà, c'est ça. Ouais, plus bref. On est innovant, mais sur pas mal de trucs un peu inutiles.
On aime bien travailler beaucoup pour ce qui marche. On sait pas si ça marche, mais on adore travailler dessus. Après, bah, niveau 3D, je t'en prie.
À niveau 3D, après, on a beaucoup pioché à droite à gauche, plus recherché sur internet, des inspirations, Airstation évidemment, tout ce qui était sci-fi qu'on pouvait trouver. Après, forcément, Star Citizen. Celui-là, visuellement, bah voilà, il faut une claque à n'importe quoi, il est très très intéressant à étudier. Après, si on a eu aussi Destiny, ouais, c'est celui que je cherchais, Destiny qui nous a inspiré aussi pour l'efficacité avec laquelle en fait, ils fabriquent tout leur environnement. Ils font très simpliste et ça fonctionne vraiment bien, donc voilà, c'est. Halo aussi, voilà.
Halo, c'est Bungie. D'accord, je sais pas.
4, 5, 6.
Voilà, donc.
Techniquement, oui, parce que après.
En fait, on savait pas, mais c'est une chose transformée en Halo.
Non. En fait, Bungie a fait Halo et ils ont fait des choses assez énormes. C'est devenu l'une des bases en fait, du FPS et ça a marqué beaucoup de codes. Et c'est pour ça que ça reste super intéressant d'y retourner. Genre, je m'étais dit ça la dernière fois où on me demandait quelque chose et j'étais là en train de chercher des références à droite et à gauche. Et après, j'étais là en mode, bah, t'es con ou quoi ? Ils l'ont fait dans Halo en fait. Et du coup, voilà, et je retournais sur Halo normalement. Et non, il y a des trucs qu'on fait qu'ils n'ont pas dans Halo, qu'ils ont dans Doom par exemple, ou des choses comme ça. Mais au final, oui, et après, bon. Non, parce qu'après, je vais partir sur l'histoire. Donc, voilà, c'est pas intéressant. Mais oui, du coup, après, ils sont passés sur Destiny, Destiny 2. Et ouais, notre directeur artistique, il pioche, mais partout quoi. Et lui derrière, il se fait des dessins, il se fait des trucs, et il arrive à créer une propre patte artistique qui, je pense, on peut dire est la nôtre. Mmh. Et on commence vraiment à avoir un bon truc.
D'accord. Et bon, on va peut-être passer sur une dernière question déjà, parce qu'on approche de l'heure fatidique de 7h30. Il est 7h27.
Ah oui.
Donc, est-ce que quelqu'un a une dernière question pour terminer?
Après, on peut peut-être, rallonger un peu en fait. Non, mais c'était surtout moi pour que je puisse aller à mon entraînement de boxe. Mais bon.
Bah nous on a le temps.
Mais, hein, c'est... J'ai plus de temps libre. Et j'ai plus de toute façon, je resterais chez moi. J'aurais eu la flemme. Donc finalement, non mais vas-y, on va.
Bah, c'est comme vous voulez. Hein. Non, nous, on a le temps.
On peut rallonger un peu. On peut rallonger un peu.
Bon bah du coup, est-ce que quelqu'un a une autre question ou,
Alors oui, moi j'avais une petite question. Là, ça concerne un peu tout le monde au niveau des conditions de travail. Est-ce que vous êtes
45 heures minimum,
Night, est-ce que vous êtes plus proche du rush constant ou c'est ou ça dépend?
Regarde sa tête. Est-ce qu'ils ont l'air d'aller bien dans leur vie?
Et au niveau aussi des horaires de travail, est-ce que vous êtes plutôt sur les horaires fixes de genre tu viens à 8h, tu finis à 7h ou est-ce que vous
tu les sens rigoler là
libre,
Non, de pause par jour.
Non, les horaires fixes, on les a calés dès le début parce que c'est vraiment important. Se caler des horaires précis pour travailler, surtout des moments de travail, des moments de pause et encore du travail. C'est. Bah oui, parce qu'il y a la pause, bouffer. Non, c'est vraiment important d'avoir ça parce que ça permet du coup de travailler tous ensemble à certains moments, de se reposer du coup tous ensemble ensuite, ça forme une bonne équipe. Après, derrière, on a eu régulièrement effectivement des moments où il fallait travailler plus, des heures sup à droite à gauche. Sans parler forcément de sprint ou de crunch, mais on a eu de temps à autre, effectivement, selon nos deadlines, des heures sup à faire. Après, on a pu être malléable, par exemple, cet été, quand il a fait vraiment très très chaud.
Ah oui, ouais.
Ou certains qui ne sont pas habitués comme moi ne supportaient vraiment pas. Donc, on a fait non, mais on va travailler matin, entièrement matin. Et ensuite, venir dès 6 heures au travail et faire qu'une matinée.
L'été prochain, on prend un mois de vacances. Ouais.
Et comme ça, après, voilà. Donc voilà, on sait être malléable aussi. Et après, oui, il y a eu des crunchs. Ça a été toujours, malheureusement, obligatoire de temps en temps.
On essaie de l'éviter. Ah, merci, Yann.
Non, en fait, il y en a tous les jours.
Vas-y, Lucas, peut-être que tu vas pouvoir nuancer.
Non, mais... Il faut quand même dire que oui, nos patrons sont malléables, que oui, on a fait, enfin, c'est arrivé de bosser un peu plus tard et tout machin, mais bon, clairement, enfin, on peut le dire, hein, genre, il y a des patrons qui bossent beaucoup plus que nous derrière, voilà, donc oui, voilà. Et après, enfin, ils restent très sympathiques, enfin, genre, on a des jours de congé, on peut très bien enlever une heure un jour pour le reprendre plus tard dans la semaine, des choses comme ça. Enfin, en fait, on fait des concessions de notre côté, ils ont fondu leur, et derrière, on a quand même une relation qui reste un minimum saine, où on va pas, il n'y a pas de tu viens à telle heure et c'est fermé et c'est bloqué et t'as pas le choix et puis tu dois finir cette tâche là donc tu restes jusqu'à 22h. Le partant, c'est même nous qui insistons pour finir notre boulot et eux qui sont en mode rentrer chez vous, on veut pas de vous.
Ah, donc, merci.
Oui, voilà, faut le dire quand même, quoi. C'est aussi notre choix à nous et on est conscient. Et à chaque fois qu'il y a eu un crunch et à chaque fois qu'on était là en mode on a une deadline, on sait qu'on va peut-être avoir du mal à la tenir. Ils étaient en mode, on n'oblige personne à rester, et s'il y a des gens qui restent, et s'il y en a d'autres qui se barrent, bah, on ne veut pas que ça fasse un mouvement de groupe, en mode, il y a ceux qui sont obligés de bosser dans leur coin, et on va inséminer tous ceux qui sont en mode, on va les engueuler, parce qu'eux, ils n'ont pas voulu rester. Non, chacun a sa vie, chacun a ses conditions de travail, et si tu as envie de rester, si tu peux rester, et tu restes, et si tu ne veux pas, bah, genre, c'est pas grave.
Ils nous ont même payé des pizzas.
Oh.
C'est vrai que c'est arrivé de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois.
Parce que... Oh, oh non! Oh non!
Révolution!
Ou peut-être deux. Non, mais merci, Lucas.
Rip les oreilles.
Désolé si ça a paru pessimiste. Non, mais franchement, voilà. Non,
t'es viré!
Ouais! Non, franchement, voilà. C'est simplement, voilà, c'est grosso modo, ce qui se passait. Mais non, voilà, franchement, c'est volontaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, c'est. Quand on voit la quantité de travail qu'ils font, nous, on veut aussi aider un maximum et y bosser, quoi.
Parce qu'au final, enfin, non, mais...
Alors, voilà, comment dire ?
On est beaucoup à bosser, et il y en a pas mal qui aiment le projet, et c'est aussi pour ça qu'on reste. Et on a envie que le truc aboutisse, et on a envie d'en faire quelque chose vraiment, quoi. Non, mais vas-y, chiale. J'ai pas dit les patrons, j'ai dit le projet. Mais du coup, oui, on a envie que ça marche. Et du coup, bah, s'il faut rester une heure de plus pendant trois soirs pour que tu finisses ton truc pour la tâche, pour le final, bah, tu le fais, quoi. Enfin, genre, c'est une heure, ça coûte rien, on s'en bat les couilles. Derrière, on a des développeurs qui vont rester tous les week-ends parce que eux, ils ont pas le choix et qu'ils sont en plein dans le pâté. Et nous, on est là en mode bon week-end, les gars. Alors, on sait qu'ils restent jusqu'à 18h.
Tu pars le vendredi à 18h, tu reviens le lundi, tu vas descendre de
malade. Ils ont pas bougé, tu vois. Il y a 3 cartons de pizza en plus, mais ils ont pas bougé. Donc, derrière.
C'est vrai que les développeurs prennent vraiment cher.
Oui, et puis on est obligé de les engueuler pour qu'ils, enfin Flo, on est obligé de l'engueuler pour qu'ils prennent des vacances. Hein.
Oui, ouais, c'est genre. Mais après, ouais, il y a pas vraiment le choix quoi entre guillemets, oui. Quoi, c'est le problème. Mais, bon, c'est on ça, veut quoi, on veut tous voir ce projet aboutir et du coup on essaie de se donner le maximum de moyens et parfois on néglige le repos. Donc bon, il y a un moment on le faisait, comment dire, on le faisait. Pas forcément sans qu'on en ait besoin, mais on voulait absolument en faire plus, en faire plus, en faire plus, alors qu'on aurait dû peut-être prendre des vacances et plus se reposer. Bon, là, en ce moment, on a pas le choix, genre, vraiment. Donc voilà, on bosse, mais ouais. Mais du coup, ouais, les développeurs, Flo et Guillaume, prennent vraiment bien cher dans leur gueule et parfois...
Ouais, voilà. Ouais, respect, mais du coup, oui, il y a des crunchs, il y a des sprints, il y a des schtroumpfs, mais derrière...
Et bien, il y a un peu tout le monde, en fait, prend cher.
C'est ça. Mais derrière, ouais. On le veut aussi parce qu'on a envie que ça réussisse et si tu mets pas la main à la pâte, bah, le pain il va pas se faire tout seul quoi. C'est ça.
Bah, on n'oblige personne à crunch.
Ça y est.
On les invite juste cordialement à le faire.
Avec une machette. Non. Mais ça faut pas.
Bah après, si vous galérez vraiment au niveau de la programmation et que c'est juste ce coin-là où les gens restent tout le temps là à bosser H24, pourquoi vous prenez pas des stagiaires en sachant que en fait, ils sont presque entièrement remboursés par le coin. Et que vous payez genre moins de 100 euros par mois. En fait, ça coûte presque rien. C'est moins de 100 euros par mois, quoi.
Ouais, en fait, c'est... Bah, le stagiaire en prog, c'est, il doit du coup venir comprendre l'ensemble du projet, la manière dont ils l'ont fait, le temps en fait qu'ils se mettent dans le bain et autres.
Et un apprenti en licence pro ou un truc comme ça.
Bah, Guillaume par exemple était en apprentissage. Bon déjà stagiaire, apprenti, stagiaire, la personne va mettre entre 6 mois et 1 an, ça dépend du profil et malheureusement tu vas pas le savoir avant un moment pour produire vraiment quelque chose de viable dans le projet qui va pas coûter du temps à un autre développeur. C'est-à-dire que la chose qu'elle va produire ne va pas demander de la direction et tout ça. Ouais. Sinon, ça demande plus de temps à la personne qui dirige d'expliquer comment faire. Du coup,
oui, je me doute. Ouais.
Si la personne qui dirige le faisait à la place de la personne qui est dirigée, ça irait plus vite. Donc du coup, on est toujours en mode... en fait, il y a des moments pour prendre des stagiaires et des moments où tu ne peux pas te le permettre. En ce moment, on ne peut pas se le permettre parce qu'on a besoin de 100% de la prog. Si on prend un stagiaire, bah, on va devoir diminuer, par exemple, nos capacités de prog à 70% pendant 6 mois.
Ouais.
Mais ce n'est pas possible.
Ok.
Voilà. Et peut-être qu'entre deux projets, par contre, peut-être que là, on prendrait un stagiaire. Quoi.
Et pourquoi en ce moment, c'est si compliqué, c'est une période de sprint, vous avez un... Ouais, j'allais dire un rendu
petite. Alors on a l'alpha qui arrive, la session alpha qui arrive très bientôt. On va donner la date dans 2 jours, mais ça sera début décembre. Et on a surtout plus de thunes dans 3 mois. Et du coup
problèmes.
Non mais en fait c'est, on va dire que c'est surtout maintenant on commence à avoir des problèmes de trésor, des problèmes financiers. Donc en fait on a un agenda très très serré pour se préparer au pire et du coup se dire ben à tel moment il faut une version qu'on puisse commencer à vendre parce que sinon on n'a plus de thunes. Même s'il y a des solutions derrière, entre-temps on peut trouver un publisher, on peut trouver d'autres financements et tout ça. Faut quand même se préparer au pire et ne pas bouger cet agenda-là, quoi. Donc on a des deadlines qui sont très serrées, très fixées. Enfin, on peut pas les reculer. Et du coup, voilà, jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution, on est stick. Enfin, on est obligé de faire ce truc. Donc ouais. Et puis là, c'est 3 ans de travail qui sont dans la balance. Donc tu vois, c'est assez difficile de se dire ouais, non, mais c'est pas grave.
On va tout jeter. C'est quoi, 3 ans seulement?
Non. Mais du coup, le projet n'a jamais aussi bien avancé. Et pas forcément parce que les gens bossent plus. On a quand même là les développeurs qui prennent cher. Mais aussi, ouais, parce que l'expérience, et aussi parce que du coup, ça nous oblige à mettre des guidelines et du plus en bouger. Quoi.
Ouais.
Mais ça a été obligé de mettre un pied au cul sur le game design. Ça a obligé plein de gens à m'écouter, à dire ok, on fait comme ça et pas autrement. Et parfois, je me trompe, mais au moins, on va quelque part.
Voilà. J'aime bien le hochement de tête.
Et comme je disais, en fait, à partir du moment où il y en a un du coup qui va dans une direction, qui dirige le projet, ça va beaucoup plus vite dans cette direction. Mais ça peut des fois se tromper d'endroit où se diriger.
Ouais.
Donc voilà, c'est totalement plausible. Mais de manière générale, ça ira en tout cas plus vite dans la direction. Donc quand on a des deadlines, c'est beaucoup plus efficace.
D'accord. Et du coup, j'ai vu que vous étiez plutôt quand même assez flexible. Et donc vous êtes une équipe plutôt jeune, je pense, au sein du studio. C'est quoi à peu près la moyenne d'âge ou
ouais, 25 ans, je dirais, non ouais, 24, 25. Non, peut-être même... Bah, la moyenne d'âge.
Ah non, on dirait, ouais, c'est 24-25. Hein.
Ouais, un truc comme ça. Ouais.
Ouais, les jeunes.
C'est une équipe. Enfin, les jeunes. Ouais. J'ai 19, hein. Mais
oui, chez Lucas, le bébé.
Oh.
Oh. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, bah, on a peut-être encore quelques 2-3 questions à vous poser. Après, on va. On va pas vous prendre non plus votre temps. Voilà. Et oui, le plus important, je pense, enfin peut-être pas le plus important, mais vous travaillez quand même beaucoup avec des tests utilisateurs, avec des bêtas, des alphas ouverts, des choses comme ça. Pourquoi va faire ce choix-là?
Non.
Non, même pas. Vous avez pas
non,
fait.
Non, on travaille pas beaucoup avec des alphas. On en a fait une l'année dernière.
D'accord.
Qui était plus à des fins. Alors à l'époque, c'était vraiment plus pour essayer de. À la fois, ça donne du moral à l'équipe de voir le jeu joué par des vrais joueurs. Mmh. Ça permet aussi de mener des actions marketing. C'est vraiment, ça peut donner un bon gros boost à vos campagnes marketing quand vous êtes dans des moments creux. Enfin non, c'est plutôt des trucs, vous construisez votre campagne marketing autour de ça, c'est plutôt ça que je veux dire. Et on en a fait une du coup l'année dernière. Et là, on va en refaire une, notamment parce qu'on a plein de nouveaux trucs à tester. Mais on va dire qu'entre temps, on n'en avait pas besoin, quoi. À chaque fois, on testait en interne et on savait ce qui n'allait pas. Et quand on ne savait pas ce qui n'allait pas, on faisait tester en fermé, quoi, via d'autres développeurs notamment, mais aussi parfois des joueurs très sûrs. Enfin, des amis, des trucs comme ça, quoi. Et ça nous donnait vite fait, très vite, une impression de ce qui n'allait pas, quoi. Donc voilà.
On va dire aussi que le fait de faire des alphas, ça mange énormément de temps pour les développeurs.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est l'un des trucs les plus importants parce que du coup il faut tout organiser, la plupart du temps faire un multijoueur avec. Et ça prend énormément de temps et ça crée des bugs que bah, la moitié des personnes n'avaient même pas imaginé. Mmh. Et du coup il nous faut limite une semaine de debug, quoi. Des histoires où Johan, moi et parfois on recrute d'autres personnes et Johan, on fouille partout, on essaie de trouver les coins qui déconnent, on essaie de trouver les trucs et c'est plaisant pour nous mais pas pour les développeurs. Voilà, ouais. Nous on arrive tout content, on a trouvé des bugs mais on derrière
après du coup nos alphas sont propres. J'ai rarement vu des alphas aussi propres. Enfin genre bon, en termes de bugs et il y a pas vraiment.
Oui, on a déjà enlevé la moitié donc. C'est clair que derrière,
parfois j'ai dit à Florent mais c'est peut-être pas la peine de débugger autant mais bon. C'est la fierté du développeur.
Et c'est vrai que le fait de voir son jeu qui est joué par d'autres gens et de voir des trucs qui se créent autour, c'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment super agréable et même si moi personnellement j'ai adoré ça et à chaque fois je l'étane pour qu'on en fasse une autre mais il y a d'autres trucs avant donc,
En fait là ça fait 4 mois qu'on voulait faire une alpha déjà en septembre mais il y avait tellement de trucs où on savait qu'on pouvait améliorer, qu'on a repoussé, bah là on a repoussé en décembre, jusqu'en décembre pour avoir vraiment toutes les fonctionnalités qu'on veut tester qui sont là. Donc, comme ça ça va nous servir un maximum, quoi. Mais on préférait repousser plutôt que se forcer à tenir une date, ça avait pas d'intérêt.
Et le truc aussi, c'est que en fait, il y a eu tellement de changements depuis la dernière fois. Enfin, alors, ça fait un an. Et
entre la version Gamescom il y a 4 mois.
À chaque fois qu'on est parti à une Gamescom, au Toulouse Game Show ou quoi que ce soit, en fait, à chaque fois, on avait un nouveau jeu. On avait quelque chose qui était totalement. On aurait pu faire une alpha à chaque fois. Et puis, mais et là, pareil, genre, on a quelque chose, mais ça ressemble en rien du tout. Il y a un moment où, en un mois, on a refait presque tout le design graphique du jeu. Et les 3D artistes ont bossé comme des malades. Et ils ont repassé un coup de peinture. Et c'était genre. Pourtant, ils montraient des images. On était en mode, mais c'est pas chez nous, ça. Bah si, ça sort de l'engine. Bah non, c'est pas notre jeu. Genre. Et oui, on a eu une évolution qui est assez monstrueuse, quoi. Mm. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de la faire tester. Donc.
Mais là, bientôt.
Mais là, voilà, c'est.
Bientôt, enfin, ça arrive.
Personnellement.
Sur YouTube, quand je serai sûrement à la bourre dans la publication, vous aurez peut-être le lien dans la description vers le tweet d'annonce ou je sais pas quoi.
Ouais, ok, ça marche.
Vous pourrez aller regarder dans la description de la vidéo. Pas du podcast parce que ça sort ce soir, mais j'espère.
S'il y a le temps.
Peut-être. On verra. Mais voilà, donc on va peut-être quand même, pour pas trop empiéter sur notre heure limite, on va pas terminer par une dernière question. Peut-être, quels sont les conseils que vous donneriez. Bah du coup, aux personnes voulant se lancer dans le jeu vidéo ou soit créer une entreprise, soit bosser dedans.
Ne faites pas comme nous.
Et de toute façon, vous aurez... j'y penserai.
Ouais, c'est chacun. Parce que plusieurs.
Dans la description, j'y penserai. Il y aura le lien vers... Je crois qu'elle a été filmée, la conférence que Indie Game Night.
Ouais, ça a été filmé. J'ai pas du tout eu le temps de la mettre en ligne.
D'accord, il n'y aura pas de lien.
J'aimerais un jour.
Mais voilà, d'accord. Mais ouais.
Bah, il y aura peut-être d'ici que tu sortes la vidéo, peut-être que elle sera.
Bon, elle sortira, je pense, jeudi ou vendredi.
Non, mais c'est con. En plus, j'ai juste un petit truc à faire et il faudrait que je la mette en ligne. Mais là, en ce moment,
oui, bah, je pense bien.
Voilà.
Donc voilà, du coup, quels sont vos conseils que vous donneriez
Vas-y.
Soit un peu tout le monde, soit...
Faites un truc qui vous fasse plaise.
C'est ce que j'aurais dit, en fait. C'est genre, commencez pas avec quelque chose de trop gros et en vrai, bah, faites le jeu auquel vous aimeriez jouer, quoi.
C'est parti.
Mais non, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu pareil. De toute façon, vous allez faire un truc qui va vous plaire. Ce truc risque d'être trop gros, de base, faut dire ça. Donc, ce truc risque d'échouer grandement. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est prendre du recul, rester tranquille et puis se dire en fait que ce que vous accumulez, c'est de l'expérience et que c'est au bout de 5, 10 ans, 15 ans de métier, peut-être que vous allez arriver à vraiment faire ce que vous vouliez à la base. Et que c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais surtout, vous découragez pas, travaillez. Ne vous dites pas non plus que c'est parce que vous faites trop d'heures que vous allez être efficace. Ça, c'est un truc, genre, c'est pas parce que vous faites 70 heures par semaine que forcément vous faites un bon jeu. Même souvent l'inverse. Souvent, en fait, les gens qui font des bons jeux, ils travaillent moins de 35 heures par semaine. Et du coup, peut-être. Essayez de vous poser les bonnes questions, remettez-vous en question, soyez avec des gens qui peuvent être honnêtes avec vous, surtout, et essayez de vous entourer de personnes qui ont peut-être un peu d'expérience déjà dans le jeu vidéo. Donc ça peut être difficile dans certains cas, parce que dans des villes comme justement comme Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, rapprochez-vous de gens qui ont de l'expérience dans le jeu vidéo. Voilà.
C'est quelque chose qui est très important. C'est l'un des conseils les plus importants que j'avais retenu de mes heures de visionnage de vidéos et de vidéos. C'est quand on travaille dans le jeu vidéo, l'une des choses les plus importantes, c'est justement d'aller dans une boîte, de voir comment les gens y travaillent, si possible y travailler en tant que stagiaire, mais avoir une expérience en fait, de voir si c'est vraiment ce qui nous plaît, parce que le jeu vidéo est instable, c'est un milieu qui est vachement instable, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Genre que ce soit une grande boîte comme Telltale ou une boîte indé qui d'un coup n'a plus d'argent, c'est... Travailler 3 ans dans la même boîte, c'est une chance de base. Et du coup, ouais, c'est vraiment aller dans le milieu, voir si ça nous plaît vraiment et après s'y lancer, quoi. Mais il faut vraiment amagasiner l'expérience le plus possible, quoi.
Oui, c'est clair.
Nous, on est une boîte full junior et on a pris du temps à apprendre. Maintenant, on commence à avoir un bon niveau. Mais le problème, c'est que voilà, quoi, on commence à être sur la fin et c'est vraiment dommage parce que si on avait ce niveau-là quand le projet avait commencé, on aurait décollé.
Oui, bien sûr.
C'est ça qui est...
Après, c'est vrai ce que tu dis. Hein. C'est, je pense, très important quand on veut se lancer dans le jeu vidéo d'avoir déjà une expérience professionnelle avant et pas de se lancer comme ça. Ne pas créer sa boîte un jour sur un coup de tête. Ouais, pas faire comme nous. Après, le problème, c'est que aussi. T'as pas beaucoup de chances de trouver un job dans le jeu vidéo. T'as vraiment très peu de chances parce qu'il y a très peu de boîtes qui font comme nous, qui prennent des juniors. Voilà, bonne chance. Si vous avez de la chance de trouver un job dans le jeu vidéo, quel qu'il soit, prenez-le. Vivez l'expérience comme elle est. Vous faites pas trop exploiter non plus, mais bon, voilà. Et j'espère que ça ira pour vous, quoi.
D'accord.
Après, à côté de ça, c'est un vrai plaisir. Hein.
Ouais.
J'aime me faire exploiter.
C'est vrai que pour le coup, c'est une expérience géniale. Enfin, on passe de très bonnes journées. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça reste une équipe qui est géniale. Il y a une très bonne ambiance. Et au final.
Mon cœur.
Ouais, non, si, même si ça s'arrête un jour, ça restera une très très bonne expérience. Quoi. C'est quelque chose qui ne va pas s'oublier.
Bah, je pense bien.
On espère que ça ne s'arrêtera pas.
C'est clair.
En espérant. Ouais. On verra dans 3 mois.
Ouais, c'est ça.
Non, mais on va
c'est à peu près ça, ouais.
Non, mais on va espérer quand même pour vous que ça continue parce que le jeu est bien sympa du peu que j'en ai vu dans les trailers et tout ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est ce qui va terminer cet épisode de l'Alconos, cet épisode 10 déjà.
10 déjà.
Ouais, 10. Ça fait depuis septembre. Voilà, il était il est dans les temps. On est un petit peu plus court que d'habitude. Mais voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont donné la thune sur Ulule pour qu'on puisse avoir ce matos. C'est important, sinon on serait encore avec.
Vive la thune.
Bah oui,
vive la thune.
Mais voilà.
Sinon on serait là enregistré.
Donnez-nous des sous.
Ouais, c'est ça, on aurait un téléphone.
On enregistre une webcam.
Ouais, c'est ça. Non, pas cette webcam, tu sais, la webcam que j'ai chez moi, c'est un truc dégueulasse.
Oui,
hein.
Oui.
Parce que elle est bien, cette webcam. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à toutes les personnes qui étaient sur le chat. Ce soir, on a pété notre record, on était à 8. C'est la fête, d'habitude,
incroyable.
On est à 2. Non, mais c'est vraiment, voilà, merci à toutes les personnes qui sont venues. N'hésitez pas à aller vous abonner au flux RSS, donc c'est alconos.lepodcast.fr. Sur YouTube, yt.alconos.pm. Twitter Alconos Podcast et
comme d'hab les liens seront dans la description. Hein.
Oui parce qu'ils sont
n'est-ce
tout le
pas,
temps. Ceux-là ils y sont, d'accord et tapez pas s'il vous plaît. Donc voilà, on va pas vous embêter plus longtemps et on vous dit à lundi prochain 20h Non, même pas à 20h parce que
on non, aura... on aura une invitée normalement, deux, normalement donc peut-être. Oui, deux.
Donc voilà, donc à la semaine prochaine, je ne sais pas quelle heure sur Twitter vous verrez.
On verra bien.
Et bah, au revoir tout le monde.
Salut.
Salut. Salut. Salut.